La Première Guerre mondiale a apporté des changements majeurs dans le monde de l'aviation. Les nombres de types d'aviation étaient inventés. La plupart des avions qui existent en 1914 ont été utilisés pour la reconnaissance et étaient utilisés pour observer les bases ennemies et pour localiser les mouvements des artilleurs ennemies. Ils ont principalement destiné à vous permettre d'arrêter le mouvement de vos ennemis et de dépêcher l'achèvement des missions d'ennemis. Cependant, ils sont ensuite transformés en chasseurs et bombardiers, ce qui a gravement changé l'aviation. Le premier avion de chasse. Le premier avion de chasse était fabriqué en 1915. Il était équipé d'une mitrailleuse fixée à l'avant. Ces avions étaient conçus pour abattre les avions de l'ennemi et le feraient en tirant dans l'hélice de l'autre avion, l'autre instrument la puissance lâchée et il va au sol en flammes. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours aussi bien. Parfois, ils se tirent même dessus. Le premier pilote à utiliser cet avion était un pilote français nommé Roland Garros. Roland Garros, il a pris son vol le 1er avril 1915. Au cours de ce vol, il a abattu un avion d'Allemagne. Cet avion était utilisé pour observer les ennemis. Après cette utilisation réussie de l'avion, Garros ajoute 4 autres à sa flotte en seulement 4 semaines. Ils ont fait ça pour qu'il puisse avoir un avantage dans l'air. En 1915, il fut contraint de descendre derrière les lignes d'Armand et révéler accidentellement son secret aux Allemands et aux Netherlands. L'avionneur Anthony Fokker, dont l'usine était à permettre, a été immédiatement convaincu pour l'inspecter l'avion. Anthony a été immédiatement sommé de retourner à son atelier afin de pouvoir le reproduire le plus rapidement possible. Il a fait reproduire dans juste 48 heures. Cependant, Fokker et ses ingénieurs ont vu que l'appareil français était rudimentaire et ont décidé de le modifier. Il a fabriqué une mitrailleuse dont la cadence de tir serait contrôlée par l'hélice pour que ça passe à travers l'hélice sans problème. Les généraux allemands l'ont fait sortir pour un vol d'essai avant qu'il ne soit utilisé au combat. Fokker avait le travail d'aller chercher un avion français et de l'abattre. Il a trouvé un avion français, mais en se rapprochant, il s'est rendu compte que s'il essaie d'attaquer, ça serait sa propre mort. Et il a abandonné sa mission. Fokker dit dans son journal, « Pendant que je volais environ 6000 pieds de haut, un biplane Farman biplane semble à ce qu'il m'avait bombardé a apparu du nuage à 2000 ou 3000 pieds plus bas. C'était l'occasion de montrer ce que je ferais l'armée, et je me dévise rapidement vers elle. L'avion, un type d'observation avec des hélices à l'arrière, volant tranquillement. Peut-être même que les Français ne m'en voient pas. Il faut une longue pratique et une vigilance constante pour se promener contre une attaque aérienne surprise, car l'ennemi peut en attaquer une à partir de n'importe quel point de la sphère. Comment l'invention de l'avion de chasse a-t-il affecté le Canada? Eh bien, pendant la guerre mondiale, le Canada était impliqué dans cette guerre, était lorsque le chasseur était inventé. Une fois la nouvelle de ces nouveaux avions diffusée, tous les pays concernés ont voulu en faire une réplique pour eux-mêmes. L'avion du Canada est sorti en 1918, environ 3 années après l'invention des Français. Cela finalement donne au Canada une meilleure force aérienne. Un des plus populaires pilotes d'avions de chasse est Billy Bishop. Billy Bishop était la plus bonne pilote pour les Canadiens dans la Première Guerre mondiale. Pendant ses temps dans la guerre mondiale, il a reçu 72 gains. Il a aussi été dans la Deuxième Guerre mondiale où il était un plice d'air. Il a mouru en 1956. La guerre affectait sa santé. Quand il a mouru, il a eu laissé son héritage et maintenant il a beaucoup de routes, les parcs, aéroports et édifices qui est dans sa nom. L'avion de chasse en 1918. Cet avion a été fabriqué vers la fin de la Première Guerre mondiale. Ce prototype d'avion n'a jamais été réellement réalisé, mais a aidé la fabrication des autres chasseurs. Seulement deux de ces prototypes ont été réalisés, mais sont jamais utilisés. C'était un avion de chasse à deux places qui avait le pilote à l'avant et la terrière derrière lui à l'arrière assis très près l'une de l'autre. La puissance du moteur de cet avion était de 300 chevaux et avait un pistolet à moteur à piston en ligne Hispano Suiza 8FB. Cet avion, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais été utilisé, mais a servi de base à certains des avions qui ont été fabriqués plus tard. Il devrait être envoyé aux autorités françaises le 1er mai 1918, mais le premier prototype ne fut pas livré. Pour les incidences des autres problèmes, le secondaire n'était pas fou avant 1919 et était une cause perdue. Comment est-ce que ça affecte le Canada? Cela affecte le Canada parce que cela a donné au monde entier l'idée qu'il pouvait fabriquer un chasseur avec un pilote et un artilleur à l'arrière. Cela a donné l'idée au monde entier et comme cela a montré dans les autres pays, ils ont pris l'idée et ont essayé de le rendre meilleur, ce que nous avons vu tout au long de l'évolution du combattant dans les années 1920. Le ACAZ-C.2 était le premier avion belge qui a eu deux places dedans. Cet avion était fabriqué par un homme de le nom Commandeur Fernand Jacquet. Fernand était un héros de la Première Guerre mondiale pendant son temps dans la Première Guerre mondiale. Il a aidé de nombreux mécaniques avec leur avion et a travaillé sur les nombreux types d'avions. Fernand a fabriqué le premier chasseur de place pour les Belges en 1926, bien après la Première Guerre mondiale. C'est un avion léger qui a eu un punch avec son avion de chasse 12 cylindres avec 450 chevaux. Lors de son test, le prototype a échoué et était contraint de faire un atterrage d'urgence pendant sa vol. Il était équipé d'une mitrailleuse Vickers tirée à travers l'hélice par le pilote. Le 9 mars 1928, il lance la deuxième version de la C.2 qui échoue également. C'est un vol qui est censé se rendre au Congo. Gourdeau, Le Sûr, GL.30 et la famille. Gourdeau, Le Sûr, GL.30 et la famille. Cet avion était un avion de cour qui était inventé en France 1920. Cet avion n'était cependant d'être début pour le français. Ils ont utilisé cet avion et ont créé d'autres dans les années suivantes. Il y avait 500 employés de cet modèle exact. Cette famille de combattants était la variable début de les compétences. Le GL.30 était un début à la famille. C'était avant tout pour les cours. Elle avait un moteur capable d'aller à 360 km par heure et plus il avait 500 de ces modèles particuliers. Le GL-30 était un monoplan et allait du parasol avec train d'atterrissement retirant un moteur Bristol Jupiter. Il était presque identique à son frère le GL-30 à l'expérience de quelques caractéristiques dont une envergure plus grande, un moteur différent, 4 météores, 2 fuselages en vent et 2 sur les ailes. Cela fut fait en 1922, près de 2 ans après son frère aîné, le GL-30, mais officiellement annoncé comme un chasseur en 1923. Cet avion était planifié pour la guerre, contrairement au GL-30 qui était plus ou moins juste un avion de cours. Le prochain avion de la famille était le LGL-32. Le LGL-32 était un avion de chasse qui était plus évolué que les derniers. C'était aussi un deux fusilleurs avions qui était le premier avion de chasse qui était fait dans le groupe LGL-32. Il a eu 490 de ces modèles créés dans le monde en total. Entre les prochaines années, ils ont fait beaucoup de modifications sur cet avion et créé des différents modèles. La LGL-32.01 était un prototype qu'il a utilisé pour les avions qu'on a vus entre les années 1925 et 1930. En 1927, ils ont essayé de faire un différent type d'avion qui était appelé la LGL-32 HY. Ça était un avion qui peut aller sur l'eau. Il était un pontoon jumeau et était développé du LGL-32 prototype. Cet avion a eu des records comme le record d'altitude d'avion de son type. Ce record était sur le 28 mars 1927. Les prochains avions étaient des modifiées versions du LGL-32 prototype. Ces avions ont eu environ 600 chevaux et étaient le plus vite avion dans ces familles. Le deuxième dernier avion qu'ils ont fait dans les 1920 était un avion qui était aussi une modifiée version du LGL-32 qui était un de ses plus vite avions mais ne peut pas chasser le record d'altitude à ce point. Le dernier avion qui a été fait dans cette famille entre les années 1915 et 1930 était le LGL-324. Il était un des plus modifiés avions qu'ils ont fait pendant ce temps et il a été utilisé par un pilote appelé Pierre Limoges, qui a essayé le record d'élévation pour un avion de terre avec 500 kg de cargo dedans. Il a eu le record sur le 23 mai 1929. Ceci a affecté l'évolution d'aviation parce qu'ils ont fait tellement d'avions différents pour les différents types de travaux. Il a fait une des plus bonnes familles d'avions dans les années 1920 ou 1930. Ils ont complètement changé l'aviation. Quand il était fini, ils ont eu plus que 30 différents types d'avions et 4 différentes catégories. Ceci n'a pas effectué le Canada directement, mais ça donne tous les mondes des différents types d'avions qui ont fonctionné et qui ne sont pas fonctionnés pour qu'ils puissent continuer d'évoluer les avions eux-mêmes. Merci pour m'écouter. J'espère que tu maintenant sais plus à propos de les avions de chasse entre 1915 et 1929. Et leurs effets sur l'aviation aujourd'hui. Entre 1945 et 1982, il y a eu de nombreux changements dans la technologie utilisée dans le ciel. La technologie a avancé et l'avancement de la technologie a venu l'avancement des avions de combat. Je suis regardé les trois combattants les plus populaires au cours de cette période.